VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Crise migratoire, la police italienne a arrêté à Messine, en Sicile, 3 personnes accusées de trafic d'êtres humains, d'enlèvement et de torture de migrants candidats au départ vers l'Europe depuis la Libye. C'est ce qu'ont annoncé les autorités italiennes ce lundi. Les suspects, un Guinéen de 27 ans et 2 Égyptiens de 24 et 26 ans, sont soupçonnés d'avoir mis en place un camp illégal de prisonniers dans une ancienne base militaire à Zaouia, à l'ouest de Tripoli. Et ils réclamaient à leurs captifs une rançon en échange de leur libération. Les 3 hommes arrêtés avaient eux-mêmes traversé la Méditerranée et débarqué le 29 juin sur l'île italienne de Lampedusa avant d'être transférés en Sicile. Afrique du Nord toujours, élection présidentielle en Tunisie. L'universitaire sans parti politique Kais Saied arrive en tête du premier tour de la présidentielle dimanche avec 19% des voix, selon des résultats officiels préliminaires portant sur 27% des suffrages. Ce sera annoncé ce lundi l'instance des élections ISIE. Selon ces résultats, M. Saied devance l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui qui obtient 15% des voix. Selon son décompte partiel, pratiquement au coude à coude avec le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, avec 13,1% des voix. Les partisans de Nabil Karoui réclament la libération de leur chef. Le point avec Jean-Roger Bion.
Nabil Karoui est au second tour, a indiqué une responsable de son parti, Kalb Tounes. Nous espérons qu'il sera libéré demain et qu'il puisse mener campagne de façon équitable, a déclaré l'épouse de M. Karoui, Salwa Asmaoui, devant la presse avant de lire une lettre écrite par son mari arrêté pour blanchiment et fraude fiscale. Nous espérons pour ce second tour que l'injustice cesse et que la compétition électorale soit équitable envers les deux candidats, avec un respect total de la Constitution, des lois, de la volonté des citoyens et des électeurs, a-t-elle lu. Le premier candidat à la magistrature suprême présenté par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, arrive troisième. Pour sa part, l'instance en charge d'organiser les élections a indiqué que le taux de participation avait atteint 45%. Les résultats officiels préliminaires ne seront annoncés que mardi par l'ISIE.
En Algérie voisine, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé dimanche que l'élection présidentielle aurait lieu le 12 décembre, respectant minutieusement la suggestion du chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays depuis la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. Le général Gaïd Salah avait réclamé le 2 septembre que la date de la présidentielle devant permettre d'élire un successeur à M. Bouteflika soit annoncée le 15 septembre pour que le scrutin ait lieu avant la fin de l'année, malgré les protestations du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 22 février. En Afrique centrale maintenant, nouveau drame fluvial en RDC. 36 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau de transport de marchandises et de passagers sur le fleuve Congo dans la région de Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé dimanche la police qui fait état de 76 rescapés. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Le bateau en provenance de Maïndombé dans l'ouest du pays et à destination de Kinshasa a fait naufrage dans la commune de Maluku, située à une centaine de kilomètres du centre-ville, à un endroit où le courant du fleuve est fort. Les accidents sont fréquents sur les cours d'eau de la RDC en raison de la vétusté des embarcations, de leur surcharge en passagers et fret et de l'absence de balisage. Les bilans sont aggravés par le fait que dans la majorité des cas, les passagers ne portent pas de gilet de sauvetage et la plupart ne savent pas nager. La RDC ne compte que très peu de routes praticables. Les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo, ses affluents et les lacs. Au mois d'août, au moins une quinzaine de personnes sont mortes dans un naufrage d'une pirogue motorisée à Bukavu sur le lac Kivu, dans l'est du pays. Fin mai, le naufrage d'une péniche avait causé la mort d'au moins 32 personnes sur le lac Maïndombé, dans l'ouest du pays. Mi-avril, le naufrage d'une embarcation entre Goma et le territoire de Kalehe sur le lac Kivu avait endeuillé 142 familles, selon le président Félix Tshisekedi, sans que l'on en sache le bilan exact.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes de Boko Haram au Cameroun. 6 soldats camerounais ont péri vendredi dernier dans l'extrême nord du pays lors d'une attaque des islamistes contre leur poste militaire à Souéram, non loin du lac Tchad et de la frontière du Nigeria. 9 autres soldats ont été blessés dans cette incursion menée en fin de soirée par un commando djihadiste équipé d'armes légères, selon un officier de l'armée camerounaise et 2 hauts responsables de l'administration de la région. Et toujours concernant les violences dans le Sahel, les chefs d'État de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et leurs homologues du Tchad et de la Mauritanie étaient en réunion samedi à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce sommet axé sur la sécurité s'est terminé par un appel à plus de soutien de la communauté internationale à leur combat et à un engagement de mobilisation d'$1 milliard pour lutter contre le terrorisme. Compte rendu de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
À Ouagadougou, les chefs d'État de la CEDEAO ont condamné les attaques terroristes et les violences intercommunautaires dans la région. Ils sont tous unanimes. La déstabilisation de la Libye est la conséquence de ces nombreuses attaques terroristes. Et la communauté internationale y est pour quelque chose.
La communauté internationale a des devoirs vis-à-vis du Sahel. La communauté internationale ne doit pas détourner ses regards du Sahel.
Mahamadou Issoufou, président du Niger, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO.
C'est la communauté internationale qui est à la base de la crise libyenne. Crise libyenne dont nous subissons les conséquences aussi bien dans le Sahel que dans le bassin du lac Tchad. Quand cette crise libyenne a été déclenchée en 2011, nous, on était contre. On ne nous a pas écoutés et on n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer, comme on l'a souvent dit, le service après-vente à Libye.
La conférence a décidé d'adopter un plan d'action prioritaire sur la période 2020-2024. Les chefs d'État décident ainsi de mobiliser $1 milliard pour faire face au terrorisme. Cet argent sera utilisé en fonction des priorités. Le président burkinabé Roch Kabore, aussi président en exercice du G5 Sahel.
Vous avez des questions de formation, dedans vous avez des questions d'équipement. Dedans, vous avez tout ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne la mutualisation des renseignements, etc., etc. Alors, je pense que la collecte va se faire en même temps que sur les différents axes qui ont été dégagés par la CEDEAO, il y en a 8, le financement donc sera adapté à chacun de ces axes.
Tout ne doit pas se limiter au sommet de Ouagadougou en ce qui concerne les questions de sécurité dans la région.
Une chose est d'organiser des sommets, mais une autre chose est de mener des actions fortes suite à ces sommets.
Laurent Kibora, spécialiste en sécurité et développement.
Les conclusions de ce sommet devraient faire acte d'action. Il ne faudrait pas que ce soit des paroles. Il ne faudrait pas qu'à la ressemblance des autres sommets, ces conclusions soient rangées dans les tiroirs. Nous voyons qu'il y a une promesse de lever des fonds de $1 milliard. Mais ces 1 milliard doivent contribuer à lutter contre la pauvreté et non à acheter des armes.
La mutualisation des efforts, le partage de renseignements, la dotation à l'AMUNUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, des mandats plus robustes, lui permettant de lutter de manière plus efficace contre le terrorisme, l'entrée en guerre de la force en attente de la CEDEAO, au moins 12 000 hommes, sont entre autres des décisions de ce sommet de Ouagadougou. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis pour terminer, le président de l'Iran, Hassan Rouhani, n'a pas prévu de rencontre avec son homologue américain Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le porte-parole de la diplomatie iranienne. Le point avec Michel Joseph.
Nous n'avons pas prévu cette rencontre et je ne crois pas que ce genre de choses aura lieu à New York où s'ouvre mardi la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré Abbas Mousavi, porte-parole de la diplomatie iranienne, sur une chaîne de télévision d'État iranienne. Dans un contexte de tensions grandissantes entre Washington et Téhéran, la Maison-Blanche a déclaré dimanche que M. Trump n'excluait pas l'hypothèse d'une rencontre avec M. Rouhani, assurant que le président américain allait y réfléchir. Ces déclarations intervenaient après une attaque de drones contre 2 installations pétrolières en Arabie Saoudite, revendiquées par les rebelles yéménites Houthis, soutenus par Téhéran, qui font face depuis 5 ans à une coalition armée menée par Riyad. Washington a attribué la responsabilité de l'attaque à Téhéran en l'accusant d'avoir mené une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.